France Inter. Alexandra Ben Saïd, Jérôme Cadet, le 7-9.
Deux invités ce matin dans ce grand entretien pour analyser l'offensive des troupes de Vladimir Poutine en Ukraine au 7e jour de cette invasion russe, alors que les villes ukrainiennes sont de plus en plus violemment frappées, les civils pris pour cible. Est-ce une nouvelle phase dans cette offensive? Les livraisons d'armes des Occidentaux pourront-elles infléchir l'issue du conflit? Quel rôle pour l'OTAN, dont l'Ukraine réclame en vain l'intervention depuis une semaine? Avec nous pour répondre à ces questions ce matin, Pierre Servant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de défense et de stratégie, auteur du livre 50 nuances de guerre, c'est aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Camille Grand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN, vous intervenez Camille Grand en direct de Bruxelles, merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs d'Inter peuvent vous interroger au 01 45 24 7000, j'attends vos questions également via les réseaux sociaux et l'application France Inter. Je voudrais commencer simplement par une question sur les informations dont on dispose. Pierre Servant, comme toujours en période de guerre, la propagande, les fausses informations, est-ce qu'il est possible d'avoir une idée assez nette de ce qui se passe sur le terrain et des rapports de force?
C'est toujours difficile et on a affaire à ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. C'est une expression très très ancienne. Elle vaut bien sûr pour aujourd'hui. Alors comment arriver à voir un peu clair? Bien sûr, il faut regarder ce que les envoyés spéciaux font sur place. Ils font un travail remarquable. Alors ce sont des vues parcellaires de la situation. La presse écrite aussi, les journalistes, les envoyés spéciaux font des choses que moi je reste un homme à l'origine de la presse écrite. Et puis après, il faut avoir des contacts avec ceux qui sont directement les responsables politiques ou militaires qui sont en prise avec les événements. Pour ma part, pour vous donner juste une indication, j'ai la chance de pouvoir avoir accès presque tous les jours aux points de situation militaire ukrainiens. Les Ukrainiens font tous les jours un rapport, alors qu'il faut prendre aussi avec des pincettes, notamment en termes de pertes. Je suis toujours un peu surpris du nombre de tués annoncés du côté russe, mais ça donne un certain nombre d'indications sur le matériel militaire utilisé, sur la manœuvre russe, etc. Donc il faut croiser tout cela et il faut le traiter avec humilité et prudence.
Précisément, vous parlez du travail des envoyés spéciaux sur place. L'un de nos envoyés spéciaux, Eric Biegala, nous expliquait tout à l'heure à 7h30 que les Russes, une partie de leurs unités, étaient arrivés en Ukraine avec 3 jours seulement de vivres et que certains raflent les épiceries en ce moment car ils n'ont plus assez de nourriture, que des véhicules russes se sont retrouvés en panne d'essence sur l'autoroute, et il nous parle aussi de communication au talkie-walkie, des talkie-walkie civils, des conversations qui peuvent être interceptées. Camille Grand, est-ce que ce sont des informations dont vous avez eu l'écho et dont vous avez eu possession?
Alors, effectivement, on voit une situation dans laquelle la résistance ukrainienne est assez exceptionnelle et où très probablement les plans de Vladimir Poutine pour une victoire rapide et la chute du gouvernement à Kiev en quelques jours ou quelques heures ne se sont pas matérialisés. On a aussi beaucoup d'informations sur les difficultés logistiques rencontrées par les forces russes qui sont assez classiques dans ce type d'opération sur un territoire hostile, mais qui disent quelque chose également des difficultés rencontrées par l'armée russe en Ukraine. Après, la disproportion des forces reste très importante, donc il faut regarder ça avec beaucoup d'attention et ne pas céder à ni à une sorte d'optimisme exagéré, et le président Zelensky hier devant le Parlement européen disait à quel point la situation était difficile, ni penser que c'est une affaire qui va se régler en quelques jours.
Pierre Servant, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, une première phase ratée pour Vladimir Poutine qui ne s'attendait pas à ça? Et est-ce que ça veut dire que on va avoir des combats peut-être plus meurtriers? On voit qu'il y a des villes qui sont des forces aéroportées sur Kharkiv, on voit que Kiev, il y a ce qui ressemble à un siège qui pourrait s'organiser. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de plus sanglant, et notamment pour les civils?
Alors la prudence dont je parlais tout à l'heure, il faut l'appliquer, parce que quand vous regardez les conflits contemporains, en général, tout le monde s'est un peu trompé au démarrage. Je rappelle que sur la campagne d'Irak avec les Américains, grande puissance militaire, l'Irak, petite puissance, les Américains ont mis quand même 40 jours pour arriver à Bagdad. L'opération Serval 2013, je me souviens dès le démarrage, un certain nombre de commentateurs disaient ça va être l'enlisement des Français au Mali, c'est très compliqué, la drare des Ifogas, etc. En 15 jours, ça a été réglé et les forces spéciales françaises avec les Tchadiens sont parvenues à rentrer dans le donjon d'Acmi et à libérer des otages français d'ailleurs. Donc, toujours beaucoup de prudence. Le point que je voudrais aborder avec vous ce matin, le point d'analyse par rapport à la situation, c'est que plus j'avance, enfin dans, avec tout le monde dans ce conflit, plus je suis convaincu que le véritable objectif stratégique, et même le seul objectif stratégique de Poutine, c'est le sud et l'est. C'est-à-dire le fait de se tailler un continuum géographique qui va complètement privatiser la mer d'Azov en récupérant tout le Donbass, alors que pour l'instant, il ne maîtrise qu'un tiers, il y a des combats très durs, toute la bande côtière, Mariupol qui est stratégique, et avoir un continuum avec la Crimée. Si j'ai le temps, je développerai tout à l'heure.
Pas Kiev.
Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je précise que ce que je vais dire là, ça n'est pas une information. Je suis pas au Kremlin, j'ai pas de taupe, et donc je peux pas regarder le dessous des cartes. C'est vraiment une interprétation, parce que je ne comprends pas depuis le début, puisque je fais partie du petit nombre d'observateurs à avoir expliqué ces derniers mois que Poutine irait à la guerre, mais je n'ai pas compris, autant j'ai compris sur le sud, toute cette zone, il y a vraiment des objectifs très clairs et un bénéfice possible pour Poutine. En revanche, Kiev et l'idée de pouvoir dominer toute l'Ukraine, c'est-à-dire un pays de 40 millions de résistants aux Russes, c'est totalement impossible. Donc ma conviction, c'est que Kiev est un leurre. Kiev est un leurre. C'est-à-dire que c'est la préparation. Donc, il va y avoir un encerclement, mais depuis le début, je ne comprends pas la manœuvre militaire de Poutine par rapport à Kiev. C'est très mou du genou, il n'y a pas vraiment de force spéciale à l'intérieur, on voit des colonnes immobilisées. Tout ça me semble incohérent. Ça n'est cohérent que si Poutine menace du nucléaire, menace d'investir Kiev, et demain, quand il aura véritablement son continuum territorial, qu'il aura ses gains stratégiques au sud et au sud-est, il va à la table de négociation et il dit « Bon, écoutez, dans ma grande humanité, je suis prêt à négocier la libération de Kiev qui est encerclée, voire investie dans les faubourgs. Rappelons aux auditeurs que Kiev, c'est 7 à 8 fois Paris. Donc il peut, entre guillemets, jouer aux périphéries pour dire « Voyez, j'attaque Kiev ». Et là, il y aura un immense soulagement de tout le monde en disant « Il n'y a plus de nucléaire. Les réfugiés dont vous parliez tout à l'heure peuvent revenir. » Et même le président Zelensky, qui sera furieux de perdre toute une zone importante économique du sud et du sud-est, finalement, il y aura une sorte de soulagement. Donc, voilà le point de réflexion où j'en suis aujourd'hui, encore une fois, mais c'est de l'analyse.
Camille Grand, vous qui êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN, est-ce que vous partagez cette analyse ?
Je ne sais pas si Kiev est un leurre. Et c'est très difficile de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine et je m'y risquerai pas. Il est possible que dans toute cette manœuvre, un des objectifs ait été de faire de chuter le régime, donc de créer une situation dans laquelle justement le démembrement de l'Ukraine au sud, à l'est, devienne possible, et s'ajouterait à ça l'installation d'un régime pro-russe à Kiev sur le modèle de Monsieur Loukachenko. Encore une fois, on peut pas deviner ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Moi, je suis très prudent parce que on a beaucoup dit qu'il n'attaquerait pas, qu'il n'attaquerait que le Donbass, qu'il se resterait là où il est. Hélas, on voit que on a plutôt une escalade dans la violence de ce conflit en Ukraine aujourd'hui, avec le passage d'opérations qui étaient présentées comme des opérations de maintien de la paix à des bombardements de villes. Donc, on est vraiment dans un moment très très sensible de cette guerre.
Pierre Servent, je voudrais faire un petit point quand même sur l'état des forces russes. Que sait-on ? Parce que les Américains disent, le Pentagone dit, il y a bien sûr des problèmes d'alimentation apparemment, il y a des problèmes de ravitaillement en carburant aussi, mais ces troupes russes n'ont pas le moral. Ça marche pas aussi à l'intérieur, on fait pas avancer les hommes. On lit que ce sont des conscrits, c'est-à-dire ce sont des jeunes gens qui... pas très formés peut-être ou...
Alors effectivement, c'est une armée largement de conscription, d'appelés, du contingent, comme la France en a connu avec le service militaire, le service national, jusqu'à Jacques Chirac. Vous savez, c'est Jacques Chirac en 97 qui crée l'armée professionnelle que nous connaissons.
Donc deux jeunes Russes qui ont un travail ou qui sont en études et qui partent...
Qui partent et qui font un service militaire long, j'ai plus exactement la durée en tête. Et si vous voulez, il y a régulièrement des informations sur la violence interne à l'armée russe, dans le mode de commandement. Vous avez des mères de famille qui se plaignent. Il y a beaucoup de morts dans les exercices. Il y a de l'alcoolisme, il y a de la la violence, et donc il y a un problème de ce côté-là. Alors vous imaginez bien, alors là aussi, on est un peu lié aux informations données par les Ukrainiens sur les prisonniers qu'ils ont faits, donc c'est difficile d'avoir une véritable évaluation, mais on peut imaginer que ces jeunes Russes à qui on a vendu soit rien, parce qu'ils savent même pas pourquoi ils sont là, soit on va détruire les nazis et les drogués qui sont à Kiev ou ailleurs, et qui découvrent une population qui leur ressemble, c'est leurs cousins, leurs frères, leurs cousines ou leur mère qui se trouvent là, il y a un vrai problème. Regardez juste un détail, cette scène qui nous a beaucoup frappé il y a quelques jours, où on voit un civil bloqué comme une sorte de Superman un char. L'image est assez surprenante parce qu'on a l'impression qu'il bloque, il peut rien bloquer physiquement. Si le pilote continue, il l'écrase.
On l'a déjà vu.
Or, le pilote s'est arrêté. Il y a d'autres scènes où on voit des colonnes de véhicules qui sont arrêtées par une manifestation de civils avec des drapeaux, et on voit les militaires qui sont en tête tirer en l'air, mais ils ne tirent pas dans la foule. Donc, effectivement, il peut y avoir pour Poutine, une difficulté, d'où le besoin de Poutine que ça aille relativement vite. Et encore une fois, la différence entre le sud et le sud-est où il tape pour avoir ses buts de guerre, et Kiev, où on est dans une posture étrange.
Camille Grand, secrétaire générale adjointe de l'OTAN, que dit-on à l'OTAN d'autres forces qui seraient des soldats tchétchènes envoyés par Kadyrov ou des milices privées russes comme Wagner qui seraient sur le territoire ukrainien?
L'engagement de forces privées ou de milices sur le terrain est évidemment préoccupant. Nous n'avons pas d'informations précises ou détaillées sur l'ampleur de ces déploiements, mais ça indique sans doute le souhait d'avoir des forces en quelque sorte d'occupation, au moins dans certaines zones. Donc on est dans quelque chose qui est un nouvel élément d'escalade dans cette crise, avec l'envoi de forces qui ne sont pas nécessairement connus pour le respect des lois de la guerre, si on peut le dire par un euphémisme.
L'une des images de la nuit, Pierre Servent, c'est le discours de l'État de l'Union prononcé par le président américain Joe Biden. Il qualifie Vladimir Poutine de dictateur. Il a prononcé cette phrase, les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien. La question c'est jusqu'à quel point, dans quelle mesure les Américains sont prêts à intervenir et à s'investir? Nous n'irons pas mettre de soldats en Ukraine, a dit très tôt Joe Biden.
Et il reste sur cette position. Aucun soldat américain ou aucun soldat de l'OTAN, Camille Grand le confirmera, ne sera impliqué directement dans les combats et n'ira mourir pour l'Ukraine. Joe Biden a une position assez difficile parce que les sondages aux États-Unis, les derniers, montrent que la population américaine ne suit pas du tout le président Biden dans son soutien, même politique, psychologique ou autre avec l'Ukraine. Et par ailleurs, les républicains sont sur une position isolationniste, donc il y a vraiment pas du tout ni d'envie de Biden ni d'envie américaine de s'impliquer dans ce dossier. Et l'OTAN a raison, c'est assez tragique, mais évidemment dès que une force de l'OTAN mettait un pied en Ukraine, là alors on part vraiment dans un risque de conflit international avec du nucléaire, puisqu'il y a des puissances nucléaires russes et puis trois puissances nucléaires du côté de l'OTAN.
Camille Grand, ça c'est le fonctionnement, peut-être qu'il faut l'expliquer d'ailleurs, l'OTAN pour les auditeurs, comment ça fonctionne, pourquoi l'OTAN, cette organisation du traité de l'Atlantique Nord qui date de l'après-guerre, n'est pas encore intervenue, et pourquoi ça vous est reproché par certains, et il y a des paroles très fortes, pourquoi il n'y a pas de soldats de l'OTAN, pourquoi il n'y a pas d'avions à ce qui était la demande des Ukrainiens?
D'abord parce que l'OTAN, depuis le début de cette crise, a pris une posture de grande prudence. Et on a d'abord cherché à éviter la crise en offrant à la Russie un vrai dialogue sur ces questions de sécurité et d'intérêt commun qui, hélas, était rejeté. Et ensuite, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Ça a été dit et rappelé par les alliés, par le secrétaire général. Nous souhaitons le retrait des troupes russes d'Ukraine. Nous souhaitons la fin de cette crise et nous souhaitons un règlement pacifique de ces différends. Donc la posture de l'OTAN est une posture strictement défensive qui consiste à protéger les 30 alliés de l'OTAN, donc la quasi-totalité du continent européen et les États-Unis et le Canada, contre les effets de cette crise et contre une éventuelle tentation russe de pousser au-delà du territoire ukrainien. Donc ça a consisté à mettre en œuvre pour la première fois la force de réaction de l'OTAN, donc de déployer des forces qui se trouvent être françaises dans les pays du flanc flanc est de l'Alliance, afin d'envoyer un message très clair sur notre aptitude et notre volonté de défendre tout le territoire de l'Alliance.
Ça, ça veut dire qu'on met plus d'hommes en Pologne et en Roumanie.
En Pologne, en Roumanie, dans les pays baltes, où plusieurs milliers de soldats ont été déployés dans les derniers jours. Alors, par exemple, pour la France, c'est 200 hommes de plus en Estonie, 500 hommes qui sont en train d'être déployés en Roumanie, quelques avions de combat qui sont stationnés en Estonie ou qui patrouillent le ciel de Pologne. On voit que c'est des mesures très proportionnées, limitées, mais qui envoient un signal très clair de notre volonté de défendre le territoire de l'Alliance.
Mais sur
vis-à-vis de l'Ukraine.
Allez-y, terminez, Camille Grand.
Non, vis-à-vis de l'Ukraine, on est dans une posture différente, qui est une posture de soutien politique, de solidarité, d'assistance pratique, y compris par la décision d'un certain nombre d'alliés de fournir de l'aide humanitaire, mais aussi de l'aide militaire.
Mais sur cette non-intervention de l'OTAN en Ukraine, hier, il y a la directrice d'une ONG ukrainienne qui a pris la parole devant Boris Johnson lors d'une conférence de presse en Pologne. Elle a terminé en larmes en lui disant « L'OTAN a peur de la Troisième Guerre mondiale, mais elle a déjà commencé. On a des appels d'auditeurs aussi sur ce thème ce matin. L'OTAN a les moyens d'intervenir.
L'OTAN a les moyens de défendre le territoire de l'Alliance. Notre propos n'est pas d'engager une guerre avec la Russie dont la nature escalatoire serait tout à fait préoccupante. Donc je crois qu'il faut rester très ferme dans la défense de notre territoire, très ferme dans notre assistance aux Ukrainiens, mais comme l'ont expliqué beaucoup de dirigeants des alliés, ne pas s'engager dans une spirale militaire dans ce conflit. C'est pas l'objet de l'Alliance Atlantique.
Pierre Servant, une question d'un de nos auditeurs, Farno, qui dit « Mais la fourniture d'armes à l'Ukraine, est-ce qu'elle ne peut pas être assimilée par les Russes à une provocation et entraîner des représailles militaires ?»
C'est une vraie question, une très bonne question, notamment avec la livraison d'avions de combat. D'ailleurs, c'est pas très très simple, mais effectivement, l'Union européenne pourrait acheter d'ailleurs sur des fonds communs européens un certain nombre d'avions, des MiG notamment, qui se trouvent stockés en Bulgarie, en Pologne, en Croatie. Il y a encore un quatrième pays qui a ce type de matériel. Ces avions seraient achetés et mis à disposition des pilotes ukrainiens. On va venir à la question, qui ne sont plus des pilotes de combat, qui sont des pilotes de guerre. Et qui viendrait donc dans les pays de l'OTAN qui auraient ces avions-là pour les prendre en main et repartir en Ukraine. Et effectivement, à ce moment-là, Poutine, qui est aux aguets pour essayer de déjouer ce que Camille Grand vient d'expliquer, c'est-à-dire la grande prudence, la grande rigueur, le grand calme de l'OTAN, de dire, mais attendez, ce sont des pilotes de guerre ukrainiens qui vont sur des territoires qui appartiennent à l'OTAN pour prendre des armes qu'on ne peut plus présenter comme de simples armes défensives, mais des avions de chasse et des avions de combat, et ils pourraient s'en saisir, effectivement, pour en faire un casus belli.
Camille Grand, des soldats russes pourraient donc mourir sous des bombes européennes.
Je crois qu'on n'en est pas là.
Si les livraisons d'armes vont à leur terme.
L'assistance qui est apportée à l'Ukraine et l'assistance qui est apportée typiquement dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies à un pays qui est menacé. Donc le fait qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne, de l'OTAN aient choisi d'aider l'Ukraine qui est dans une situation de déséquilibre militaire très forte n'est pas scandaleux. Ça n'est pas des bombes européennes ou de l'OTAN, ce sont des Ukrainiens qui se battent bravement face à une invasion, une agression extérieure. Donc je crois qu'il faut être très attentif à la manière dont on caractérise cette situation. Et bien entendu, le soutien qui est apporté à l'Ukraine est un soutien qui est apporté à l'armée ukrainienne et qui n'est pas un envoi de troupes ou d'avions.
Nous accueillons Alain au Standard de France Inter. Alain qui nous appelle de Lyon. Bonjour à vous.
Bonjour. Et bravo pour vos émissions, c'est un auditeur très très fidèle qui vous le dit, et un gros big up notamment à Madame Alexandra Ben Saïd. Ma question est la suivante, elle s'adresse tout particulièrement aux militaires. Pourquoi est-ce que cette colonne qui semble totalement immobilisée depuis 2 ou 3 jours n'est pas attaquée directement par l'armée ukrainienne ? parce qu'une fois qu'elle sera arrivée à Kiev, ce sera fini, ce sera trop tard.
Merci pour cette question, Alain-Pierre Servant.
Oui, effectivement, quand on voit ces images satellitaires, vraiment, ça démange de pas avoir des strikes, des frappes aériennes qui permettraient de prendre toute la colonne en la remontant et en la détruisant. Alors pourquoi les Ukrainiens ne le font pas? C'est parce qu'ils n'ont pratiquement plus aucun avion de combat. Dans les premières heures de déclenchement du conflit, les Russes, et ça c'est un classique de toutes les opérations militaires, ils ont détruit au sol sur les aérodromes militaires les avions, ils ont percer les pistes de façon à ce qu'elles ne puissent pas être reconstruites. Et donc, il ne reste plus que quelques avions et quelques bases tout à fait à l'ouest, dans la partie qui est moins investie par les Russes. Mais ça n'est pas suffisant pour arriver sur zone. Et par ailleurs...
Des drones, peut-être, qui ont déjà servi.
Tout à fait, effectivement. Mais là aussi, vous voyez, dans les premières heures du conflit, les Russes ont frappé entre 120 et 130 cibles, et notamment les stockages de drones armés turcs vendus par la Turquie à l'Ukraine. Donc tous les armements un peu majeurs, un peu stratégiques, si je puis dire, ont été détruits. Et par ailleurs, l'aviation russe a la suprématie aérienne sur 80% de l'espace aérien. Donc ça limite la marge de manœuvre de l'Ukraine.
À l'instant, enfin il y a quelques minutes, Vladimir Zelensky qui dit « Près de 6000 Russes ont été tués en 6 jours de conflit ». C'est le président ukrainien qui le dit. Pierre Servant, je vous vois douter.
Oui. Non, je n'en sais rien, je ne sais pas.
Voilà. Camille Grand, je me tourne vers vous. À propos de l'OTAN, Vladimir Poutine, il y a une question quand même aux sources de ce conflit. Vladimir Poutine rend responsable l'OTAN de cette situation. Il dit l'OTAN s'est élargie à l'Est. Il y a eu une adhésion de multiples pays qui appartenaient au bloc soviétique. Et ça, ce serait contraire à une promesse qui aurait été faite en 1990 par les Américains aux Russes. C'est une critique qui revient aussi en France, que l'on entend. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, cette promesse ?
Alors, je crois qu'il faut être assez précis quand on parle de cette affaire. L'OTAN s'est effectivement élargie depuis 1999 avec l'adhésion de 14 pays à une alliance qui avait 16 pays à la fin de la guerre froide, dont beaucoup d'anciens pays du pacte de Varsovie et les trois pays baltes qui étaient membres de l'Union soviétique. Cet élargissement s'est fait en bonne entente avec la Russie. En 1997, nous avons signé un acte fondateur OTAN-Russie pendant que cet élargissement était en cours et nous avons créé le Conseil OTAN-Russie et la Russie a été jusqu'en 2014 un partenaire très proche de l'OTAN avec lequel de nombreux échanges avaient lieu. Donc le discours consistant à dire nous avons été floués n'avait à l'époque été pas très entendu. Ça fait seulement une dizaine d'années que Vladimir Poutine a mis en place cette rhétorique en faisant référence à des discussions très préliminaires qui avaient lieu en 1990 au moment de la réunification allemande, donc on est vraiment au tout début de l'après-guerre froide, on pourrait dire, qui sont des discussions connues des historiens, mais qui n'ont donné lieu à aucun engagement écrit de quelque nature que ce soit. Donc on est vraiment et qui d'ailleurs avait été contredite après coup. Donc on est dans une auto. Ce que je crains être une forme d'auto-intoxication où on se raconte une histoire d'un élargissement de l'OTAN, certes pas souhaité ou encouragé par la Russie, mais qui a été fait vraiment plutôt en bonne intelligence et avec une Russie qui était elle-même un partenaire de l'OTAN pendant toute cette période avec lequel on avait des relations très étroites. Donc il y a vraiment une détérioration de cette relation depuis 2014 qui est assez paradoxale dans la mesure où au fond, Poutine a généré ce dont il se plaint aujourd'hui.
Dernière question signée de Pierre de Bordeaux, elle est pour vous Pierre Servant. Pourquoi l'Occident ne forme-t-il pas sa propre milice comme Wagner pour les Russes, pour envoyer des hommes en Ukraine ?
Alors là, franchement, j'espère pas qu'on crée ce type de milice qui est une sorte de ramassis de criminels de bas étage qui s'est toujours signalé dans les pays où cette milice est intervenue par ses exactions, etc. En revanche, il y a une vraie question sur le mercenariat ou sur les contractors, ce qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire effectivement des groupes privés qui peuvent intervenir. Ça peut être une question ouverte dès lors que c'est encadré par le droit. En Russie, l'encadrement par le droit c'est une notion extrêmement floue.
J'ajoute cette dernière information qui vient, je pense, corroborer votre thèse, analyse que vous avez lancée au début de cet entretien. Pierre Servent, l'armée russe affirme ce matin s'être emparée de la ville de Kherson, dans le sud du pays, tout près de la péninsule de Crimée. Merci à tous les deux. Camille Grand, secrétaire général adjoint de l'OTAN, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci également à Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie. Je renvoie à votre livre 50 nuances de guerre aux éditions Robert Laffont. France Inter.